bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, une émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent avec Tania Rachaud. Dans ce podcast, on vous propose en fait d'analyser, de déconstruire des préjugés, des idées reçues sur l'Europe. C'est une émission qui est réalisée par Leobardo Arango. Nous revenons avec une série spéciale Green Deal qui est présentée par les étudiantes de l'université Paris-Saclay. Et dans cet épisode, on va écouter Juliette Villain, Elisa Miesi Bankoudoulois, Dounia Atiga qui vont traiter du sujet lié à la question des transports. Est-ce que le Green Deal permet aux membres de l'Union européenne de développer des transports moins polluants ?
L'Europe, l'Europe, l'Europe !
Juste sur le bilan, nous, ce qu'on retient de ces dernières années, il y a quand même eu des choses qui ont été dans le bon sens. Les transports, il faut quand même bien le dire, vous l'avez dit monsieur le président au départ, c'est en fonction des chiffres environ 30% des émissions quand même au niveau européen, donc c'est un secteur qui est très fortement émetteur. Ça c'est le problème et on sait qu'il faut régler ce problème, et l'Union européenne dit même qu'il faut baisser de 90% les émissions du secteur. Donc nous avons applaudi dès demain le pacte vert, le fameux Green Deal en anglais, qui donne la boussole donc vers cet objectif de neutralité climatique en 2050. On sait qu'il y a des solutions qui peuvent exister, et parmi ces solutions, il y a effectivement le développement de transports qui sont plus vertueux en termes d'émissions. Effectivement, sur l'ensemble des émissions du secteur des transports, les transports urbains et ferroviaires, c'est moins de 3% des émissions de l'ensemble du secteur. Donc il y a un vrai enjeu de développer massivement l'offre de transports publics urbains et ferroviaires pour arriver à faire baisser les émissions.
Vous venez d'entendre Jean-Philippe Peuzia qui travaille à l'Union des transports publics et ferroviaires et représente les acteurs du secteur des transports publics. Cet extrait nous intéresse car il rappelle les objectifs du Green Deal, la nécessité de développer les transports urbains et donc la possibilité pour les citoyens d'utiliser les modes de transport plus vertueux.
Juliette, au sein de l'UE, pourquoi la question des transports est-elle si importante ?
Au sein de l'UE, la question des transports est fondamentale, et c'est une question très large. Il s'agit des personnes qui prennent les transports en commun au sein des villes, le transport routier, de marchandises, ou bien encore des bus de tourisme. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'UE aborde ce sujet dans une situation géopolitique tendue, du fait notamment de la guerre en Ukraine. Au sein de nos frontières, ces transports soulèvent des enjeux parmi lesquels les accidents, les embouteillages, mais ce qui nous intéresse avec le pacte vert, c'est comment l'UE va faire pour réduire l'impact de ces transports sur le changement climatique.
Merci Juliette pour ces éclaircissements. D'ailleurs Elisa, quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre issues des transports dans l'Union européenne ?
Les transports représentent un quart du total des émissions de gaz à effet de serre européennes. C'est un chiffre très important qui nécessairement a amené l'UE à prendre des mesures dans le cadre du pacte vert pour s'aligner à son objectif d'une réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre provenant des transports d'ici 2050.
Parmi les personnes qui réfléchissent à des mesures concrètes au sein de l'UE, il y a notamment le groupe d'experts de la Commission européenne sur la mobilité urbaine. Ce groupe élabore des propositions de réglementation qui sont transmises à la Commission. Le 10 février 2026, ce groupe d'experts a publié un rapport concernant les nœuds urbains et la coopération entre les villes et différents acteurs, tels que les pouvoirs publics ou bien les entreprises par exemple. C'est intéressant, car le rapport fait état des lieux de ce qui est aujourd'hui mis en place dans plusieurs États membres, mais on lit aussi certaines perspectives pour l'avenir. Une chose importante et qu'il faut rappeler, c'est qu'en la matière, l'UE adopte des règlements, donc des actes qui s'appliquent directement aux États membres et qui leur imposent une série d'obligations. Un des règlements importants en la matière est le règlement RTET, Réseau Transeuropéen de Transport de 2024. Il a pour ambition la décarbonisation, de créer des interconnexions entre les villes européennes et de favoriser l'innovation en matière de transport.
Tout à fait Juliette, l'interconnexion entre les villes européennes est plus que souhaitable au sein de l'Union. Est-ce qu'on trouve dans le rapport des exemples concrets de ce qui a été déjà installé dans les villes européennes ?
Oui, un des objectifs européens posés par le règlement de 2024, c'est le déploiement de bornes de recharge électriques et de stations pour le ravitaillement en hydrogène le long des grands axes routiers. En France, par exemple, les AOM, c'est-à-dire les autorités organisatrices de la mobilité, comme Île-de-France Mobilité, permettent leur installation. En Allemagne, la mise en place de ces installations est prévue dans des plans régionaux, par exemple. Le règlement impose également aux États membres de créer ce qu'on appelle les hubs multimodaux, c'est-à-dire de faire en sorte que dans les villes, la population ait le choix de prendre le train, le bus ou le vélo, au lieu de prendre la voiture. Le rapport cite comme bon élève la région de Hanovre en Allemagne en raison de son adoption d'un plan de développement des transports pour 2035 avec un objectif de réduction de 70% des émissions, un doublement de la part des transports publics et du vélo, ainsi que des améliorations en matière d'équité sociale et de qualité de vie.
Tu n'as pas encore parlé des pistes cyclables. J'imagine que l'Union européenne aborde le sujet ?
Oui, tout à fait. Le règlement de 2024 impose aux États membres de créer des infrastructures cyclables autour des grandes villes et leurs périphéries. Concrètement, les villes doivent relier les pistes cyclables aux gares, aux arrêts de bus et faire en sorte qu'elles soient sécurisées, donc bien les éclairer et les protéger. Le rapport cite la Finlande. En gros, l'État et les municipalités signent des contrats pour coordonner logement, transport et aménagement cyclable. Résultat, à Helsinki et Tampere, les pistes cyclables ont été étendues en même temps que les nouveaux quartiers et les lignes de tramway. Et au-delà des pistes cyclables, le règlement dit clairement que les 431 nœuds urbains européens, dont Paris, Barcelone, Berlin, doivent développer ces réseaux d'ici 2030. Et ce n'est pas juste une recommandation. Les États qui ne le font pas risquent de perdre des financements européens. Donc, l'UE aborde la question des infrastructures, des transports de manière globale. Ce qui est intéressant, c'est que les rapports, comme celui du groupe d'experts, montrent ce qui marche. Pour les citoyens, ça rend concret ce que l'UE fait pour le climat. Et pour les États, ça offre des modèles à suivre. Pour les villes, ça prouve que les bonnes idées existent déjà. Il suffit de s'en inspirer.
D'écouter Breathe de Télépop Music, un morceau qui, avec ses mélodies à la fois futuristes et apaisantes, nous invite à repenser notre rapport au temps et à l'environnement. Une pause musicale pour souffler avant de replonger dans notre analyse.
Revenons-en au transport. Elisa, quels types de transports motorisés sont concernés par le Green Deal ?
Le Green Deal s'intéresse à quasiment tous les types de transports, mais nous allons nous concentrer uniquement sur les véhicules terrestres à moteur pour des raisons de précision. La question étant, qu'est-ce qu'un VTM et comment est-il décrit dans les termes du Green Deal ? Les définitions en droit interne français et celles des règlements de l'Union européenne se rejoignent. Ce qu'on entend par véhicule fait référence aux voitures, bus, camionnettes et remorques, sans oublier les deux roues motorisées. Eurostat, un organisme de l'Union, les qualifie également de véhicules utilitaires légers. On exclut donc de cette définition les transports sur des rails comme les trains ou bien les tramways.
Comment l'Union européenne traduit sa volonté de transition vers la neutralité carbone ?
L'Union prévoit des solutions relatives aux bus et aux voitures. Le Parlement européen a fait une proposition de modification du règlement en vigueur. Cette demande appuie sur la volonté d'avoir plus d'autobus électriques et de réduire les émissions de CO2 dans l'Union. Les États veulent augmenter leurs achats de véhicules électriques dans des secteurs comme les transports en commun, les transports de courrier ou de colis et également pour la collecte des déchets. Cette démarche a engendré la mise en place d'une plateforme Clean Bus Europe pour aider les villes dans cette évolution. En ce qui concerne les voitures, le règlement a pour but de fournir un meilleur accès à des structures de recharge et à des carburants alternatifs pour les véhicules à faible émission.
Elisa, peux-tu nous dire s'il existe des systèmes imposés à certains véhicules pour tendre vers l'idéal d'émissions européens ?
Oui, ils existent, car les véhicules légers sont à l'origine de 2/3 des incidences négatives sur l'environnement et sur la santé dues au transport routier. Il faut donc promouvoir l'utilisation de véhicules qui soient les plus propres et les plus économes en carburant. Les pays utilisent un système de redevances routières, comme les péages ou encore les systèmes de vignettes en fonction des émissions de CO2. En 2022, une directive de l'Union européenne se penchait sur la question de la catégorie des véhicules utilitaires lourds neufs. Cette mention du mot « neuf » est importante, car cela met en avant la non-rétroactivité du texte. La directive impacte uniquement les produits mis en service postérieurement à son entrée en vigueur. Cela crée une séparation entre les productions engagées dans la transition et celles antérieures. Par ailleurs, en 2023, suite à une évolution jurisprudentielle concernant l'effet des remorques sur l'émission de CO2, la commission les inclut également dans les émissions des ensembles de poids lourds.
Les auteurs portent-ils un avis sur les restrictions imposées à cette catégorie de véhicules utilitaires lourds et neufs ?
La professeure de droit public Aurore Lager Anna Mayer de l'Université Paris-Dauphine a écrit un article au sein de la Revue juridique de l'environnement en 2023 à ce sujet. Elle parle notamment de mobilité durable et intelligente et met l'accent sur les véhicules à émission zéro.
Comment est-ce que ça se matérialise concrètement ?
Elle fait référence au règlement de 2023, qui, dans son projet, prévoit l'arrêt de production et de vente des voitures thermiques d'ici 2035. On peut y voir des parallèles avec les règles d'émission de CO2 de plus en plus strictes. Cela pourrait mener à la création d'une nouvelle catégorie, les véhicules neutres en carbone. En 2025, la Commission a proposé d'assouplir cet objectif d'interdiction simple en remplaçant l'objectif de 100% zéro émission pour 2035 par un objectif de 90% de réduction moyenne des émissions de CO2. Cette décision a été prise du fait des oppositions de l'Italie et de l'Allemagne.
Qu'en est-il des constructeurs automobiles ? L'Union européenne apporte-t-elle des commentaires à leur sujet ?
Oui, la question de la réduction des émissions est aussi liée avec l'amendement Ferrari. Celui-ci permettrait aux constructeurs d'avoir des véhicules utilitaires légers, nouvellement immatriculés, conformes aux exigences, tout en ayant l'option d'introduire une demande pour déroger à leurs objectifs d'émissions spécifiques. La proposition de révision doit encore être approuvée formellement par le Parlement européen et le Conseil de l'UE pour entrer en vigueur. On peut citer l'Agence européenne de l'environnement en ce qu'elle nous dit, qu'alors que le progrès technologique permet de produire des véhicules plus propres, le nombre de passagers, le volume de marchandises et les distances parcourues ne cessent d'augmenter, annihilant les gains réalisés en termes d'efficacité.
Dounia, le secteur des transports est l'un des plus polluants au sein de l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous donner des mesures particulières s'agissant des transports routiers par exemple ?
Oui, bien sûr. S'agissant des transports routiers, les co-législateurs européens ont adopté un règlement en date du 19 avril 2023 visant la décarbonisation du transport routier afin d'atteindre l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050.
Oui, comme tu viens de le dire, à juste titre,
On entend bien souvent des commentaires affirmant que les émissions de gaz à effet de serre sont grandement dues aux véhicules terrestres. Mais pourrais-tu nous donner des informations plus chiffrées pour bien se représenter tout cela ?
Oui, évidemment. Comme le Parlement européen et le Conseil de l'Union l'énoncent dans le règlement susmentionné, le secteur des transports est le seul secteur dans lequel les émissions ont augmenté depuis 1990. Ce constat vaut également pour le transport routier exécuté par des véhicules utilitaires légers et des véhicules utilitaires lourds, ce qui représente ensemble plus de 70% des émissions totales du secteur des transports. Il est clair que le secteur des transports a une grande part de responsabilité dans le réchauffement climatique. L'une des grandes mesures que l'on pourrait citer est l'adoption des véhicules à émissions nulles. D'ici 2035, les voitures et camionnettes neuves immatriculées en Europe seront à émissions nulles. Cela signifie donc que ces véhicules ne produiront pas d'émissions d'échappement ou auront le potentiel de ne pas en produire. Par exemple, un véhicule électrique. Mais pas que. On entend par véhicule à émissions nulles, notamment ceux fonctionnant à l'aide de batteries électriques, de piles combustibles ou encore fonctionnant grâce à l'hydrogène. D'ici 2030, l'Union européenne souhaiterait que près de 30 millions de véhicules à émission zéro soient en circulation. Cela vise les voitures, les camionnettes, les autobus urbains, les autocars ou encore les remorques. L'Union européenne envisage de jouer un rôle majeur dans le renforcement de la mobilité à émission zéro. Elle doit dès lors concilier le respect de l'environnement avec le respect de la mobilité des citoyens européens. Le but est de rendre leurs déplacements plus respectueux de l'environnement. De plus, l'Union européenne accompagnera l'acquisition d'un véhicule à émission nulle à certains avantages pour les consommateurs, notamment pour les consommateurs ayant des revenus modestes.
L'Union européenne est engagée dans le cadre du Green Deal, mais elle doit aussi faire face aux réalités géopolitiques actuelles, parmi lesquelles la guerre en Ukraine. En quoi la guerre en Ukraine a-t-elle fait émerger des difficultés à respecter le Green Deal ?
Effectivement, dans un contexte de crise, l'urgence environnementale peut malheureusement passer au second plan. Ce conflit a en effet révélé des tensions profondes entre les ambitions climatiques de l'Union européenne et les impératifs géopolitiques immédiats. D'abord, la guerre a provoqué des ruptures d'approvisionnement et une flambée des prix de l'énergie, compliquant ainsi la transition vers des transports décarbonés. Les véhicules électriques, les infrastructures de recharge ou encore les alternatives aux carburants fossiles se heurtent désormais à des coûts importants et à des priorités économiques revues à la baisse.
Et en pratique, Dounia, qu'est-ce que ça donne ?
Dans ce contexte, certains États membres ont dû faire des choix que l'on peut qualifier de difficiles. Pour compenser la perte du gaz russe, l'Allemagne, par exemple, a relancé temporairement des centrales à charbon dès mars 2022. Une mesure présentée comme une solution d'urgence, mais qui, indéniablement, entre en contradiction avec les objectifs du Green Deal. La guerre en Ukraine a donc mis en lumière les fragilités d'une transition écologique qui dépend encore largement de la stabilité géopolitique. Pour l'Union européenne, le défi est désormais double. Maintenir ses engagements climatiques tout en s'adaptant à un monde où les crises s'enchaînent.
Merci Dounia pour ces explications. Alors que l'Europe tente de tracer sa voie entre urgence climatique et réalité géopolitique, une chose est sûre, le Green Deal ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais il reste plus que jamais une boussole indispensable pour l'avenir.
Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe spéciale Green Deal avec Juliette Villain, Elisa Miesi, Bangou Toulois et Dounia Atiga du Master Droit Européen et International de l'Université Paris-Saclay. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur le site Amicus Radio et celui de l'Observatoire du Green Deal en attendant un prochain épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux.